Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Après bientôt 1000 jours de guerre et de lourdes pertes humaines, l'Ukraine va pouvoir utiliser des missiles à longue portée contre l'ennemi russe. Le président américain Joe Biden a donné son feu vert hier. Réaction mitigée ce matin dans les rues de Kiev.
Ça aurait dû être fait avant. Maintenant, c'est trop tard. C'est le chant du cygne de Biden.
Nous allons pouvoir nous défendre avec ces missiles. Les Russes nous frappent et nous ne pouvons pas répondre. C'est horrible.
La Russie a mené ce week-end l'une de ses plus importantes offensives aériennes depuis le début de la guerre. Au moins 120 missiles et 90 drones ont été lancés sur l'ensemble du territoire ukrainien.
Tout le monde s'est mis à crier. Nous avons eu tellement peur.
L'attaque russe, qui s'est poursuivie aujourd'hui notamment sur la ville d'Odessa, visait principalement les infrastructures électriques. Cette offensive intervient au moment où le président ukrainien dit vouloir sortir son pays de la guerre en 2025.
Nous devons tout faire pour que cette guerre se termine l'année prochaine par des moyens diplomatiques.
La prochaine arrivée au pouvoir de Donald Trump accélère la perspective de négociation. Le chancelier allemand Olaf Scholz a même pris l'initiative de s'entretenir au téléphone avec Vladimir Poutine, une première depuis 2 ans pour un dirigeant occidental.
Le président russe n'a pas beaucoup changé d'avis sur cette guerre, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais l'Ukraine peut compter sur nous.
Alors faut-il renouer avec Vladimir Poutine pour sceller la paix? La Russie, qui a pris l'avantage sur le terrain militaire, est-elle prête à faire des concessions à l'Ukraine? L'utilisation de missiles à longue portée peut-elle renverser les rapports de force et marquer un tournant dans le conflit?
Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour répondre à ces questions dans un instant. À mes côtés, Jean de Glignasti. Bonsoir, bienvenue à vous, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Vous avez publié « France, une diplomatie déboussolée ». Et selon vous, la Russie aujourd'hui a pris l'ascendant et les troupes ukrainiennes ne regagneront jamais les territoires occupés par les Russes, dites-vous. Mais la décision de Joe Biden d'autoriser ces missiles de longue portée renforce la position de Kiev pour de futures négociations. À vos côtés, bonsoir Nicolas Tenzer.
Bonsoir.
Bienvenue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques. Vous avez publié « Notre guerre, le crime et l'oubli ». Et selon vous, Nicolas Tenzer, la diplomatie est un mot qu'il faut arrêter de prononcer dans le cadre de cette guerre en Ukraine. Il ne peut pas y avoir de négociations, dites-vous, car cela voudrait dire que l'Occident a perdu et cela donnerait de fait à Vladimir Poutine un droit de tuer. Et puis à vos côtés, bonsoir Joséphine Staron, bienvenue à vous, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Vous avez publié « Europe, la solidarité contre le naufrage ». Selon vous, chaque camp essaye aujourd'hui de marquer le plus de points avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche dans 2 mois, car on ne sait pas précisément quelle sera la stratégie du prochain président américain. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Marion Lourd, vous avez une image et c'est l'image du jour.
Oui, cette image du jour, c'est un missile ATACMS, un missile sol-sol de longue portée, donc, qui transporte de l'explosif. Alors, en fait, les Ukrainiens disposaient déjà de ces armes depuis 1 an, mais avec une portée limitée. Et ce que vient de faire Joe Biden, c'est de donner le feu vert à l'utilisation complète de ce missile, jusqu'à 300 km de distance. Alors, cette autorisation de frapper le sol russe avec des missiles américains de longue portée, est-ce que ça marque un tournant dans le conflit, Nicolas Tenzer?
Alors, ce n'est pas un tournant, d'autant moins que, en fait, Joe Biden a limité la portée de l'usage de ces ATACMS.
Au cas par cas, il dit.
Alors, c'est au cas par cas, et c'est essentiellement sur la région de Koursk, en partie occupée par les Ukrainiens.
Région
et là,
russe. Hein,
région pardon, russe. Région russe, de Koursk. Bien sûr, où se trouve, notamment, semble-t-il, une grande partie des troupes nord-coréennes. Et il n'y a pas du tout d'autorisation, c'est un peu l'hypocrisie, si vous voulez, de Joe Biden, qui reste toujours dans une sorte d'entre-deux, de frapper partout sur le territoire russe. Deuxièmement, vous l'avez rappelé, ces missiles ont une portée de 300 km. Les Storm Shadow britanniques et les Scalp français, un peu plus. Or, dans l'arsenal des démocraties, alors d'abord, bien sûr, les États-Unis, mais aussi l'Allemagne, et on sait que le chancelier Scholz refuse toujours de livrer les taux, vous avez des armes beaucoup plus puissantes, avec des portées beaucoup plus longues. Et pour l'instant, il n'est pas question de les donner aux Ukrainiens. Donc, est-ce que c'est un changement? Je pense que symboliquement, Biden, 2 mois avant la fin de sa présidence, après une politique étrangère qui est très largement, et à raison me semble-t-il, critiquée partout dans le monde, il essaye de montrer qu'il va un peu plus loin. Mais ce n'est absolument pas un changement majeur.
Jean de Grignassi, quelles conséquences militaires sur le terrain, une inflexion réelle ou pas de conséquences
Ça a sûrement une conséquence, parce que les forces russes qui essayent de reprendre Koursk ou même ailleurs seront plus vulnérables, hein, ça c'est clair.
Les russes et nord-coréennes, comme le disait d'ailleurs.
Et nord-coréennes, puisque c'était la raison invoquée pour l'autorisation donnée par Biden. Ce qui me frappe, c'est que Trump n'a strictement rien dit, comme quoi il doit penser quelque part que ça renforce sa position en faveur des négociations. Mmh.
Alors, est-ce que cette décision de Washington peut faire école, Marion Louan ?
Eh bien, c'est la question qui se pose, puisque l'Union européenne, par la voix de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, s'est exprimé, a réagi à ce feu vert de Joe Biden, juste avant une réunion de ministres des Affaires étrangères européens.
L'Ukraine doit être capable d'utiliser les armes que nous avons fournies à eux, pour not only to stop the arrow, but also to be able to hit the arcs. I continue believing this is what has to be done. I'm sure we'll be discussed once again.
Alors, Joséphine Staron, est-ce que ça peut donner ce feu vert, des idées aux Européens pour qu'eux-mêmes donnent l'autorisation d'utiliser leur propre matériel ?
Alors oui, ça pourrait, parce qu'on sait très bien que les Européens regardent très attentivement ce qui se décide à Washington et souvent eh bien, suivent les directives ou en tout cas s'allient hein, aux décisions prises par Washington. Donc peut-être que justement ces armes dont parlait Nicolas Tenzer, qui pourraient être un véritable atout stratégique hein, pour les Ukrainiens, pourront être utilisés ou on aura peut-être l'autorisation de les utiliser dans les mois qui viennent. Mais tout va se jouer dans les deux mois qui viennent. Et en fait, tout le monde joue la montre, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les Russes, que ce soit les Américains ou les Occidentaux, parce que dans deux mois, vous avez Donald Trump qui sera investi, qui deviendra véritablement président des États-Unis. Et là, bien malin est celui qui peut prédire ce que Donald Trump fera, choisira, décidera. Oui, il veut aller à des négociations. Quand ? Il ne l'a pas dit, il a parlé de 24 heures, ça c'était en campagne. Depuis, il est candidat élu, donc c'est un tout nouveau Donald Trump qu'on a aujourd'hui. Donc on est totalement incertain des premières démarches qui seront celles de Donald Trump, et donc chacun essaye aujourd'hui de placer ses pions, de les avancer le plus possible dans l'attente des choix que seront ceux de Donald Trump.
Jean de Grignassi, il est très flou en campagne, effectivement, Donald Trump, est-ce que l'intérêt de cette décision de Joe Biden, c'est pas justement de contraindre Donald Trump à dévoiler son jeu, en quelque sorte, parce qu'il s'il s'oppose à cette décision, on verra bien que, de fait, il se range, disons, derrière la vie de Moscou.
En fait, jusqu'à présent, en tout cas, il n'a rien dit hein, sur la décision de Biden. Par ailleurs...
D'ailleurs, l'entourage de Donald Trump est plutôt divisé, non, sur cette perspective, le recours aux missiles longue portée.
Enfin, de toute façon, les Américains, que ce soit les républicains ou les démocrates, étaient arrivés à la conclusion que il fallait terminer, que l'aide à l'Ukraine, c'était un peu cher, si je puis dire, pour les résultats. Les Américains ont fait carton plein jusqu'à présent. Hein. Ils ont détaché l'Ukraine de la Russie, ils ont infligé des pertes colossales au système russe, ils ont engrangé l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Donc maintenant...
c'est les conséquences de l'offensive, de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine.
Bien sûr. Donc maintenant, à la limite, si ça s'arrête, pour peu que Poutine fasse quelques concessions, qu'il n'est pas prêt à faire apparemment, les Américains s'en tireraient plutôt bien. Alors il y a une différence d'intensité entre, disons, les méthodes de Trump et celle qu'aurait été celle de Biden, mais sur le fond, les Américains ont envie de réaliser leur capital hein, maintenant.
Mais Nicolas Tenzer, est-ce qu'une victoire militaire totale par l'une ou l'autre des parties est encore envisageable ?
Alors, à mon sens, pour la Russie, c'est aujourd'hui complètement impossible. Mais ça dépend ce qu'on veut dire par victoire. C'est-à-dire, s'il s'agit de reprendre l'intégralité de l'Ukraine dans l'année qui vient, ce n'est absolument pas possible.
Que l'Ukraine récupère ses territoires.
Voilà, s'il s'agit, alors, pour l'Ukraine à récupérer ses territoires, tout va dépendre de l'aide occidentale. Là, j'ai une petite nuance peut-être par rapport à ce que disait Jean de Grignassi. C'est vrai qu'il y a une grande partie des Américains, démocrates et républicains, qui sont sur la ligne, effectivement, que vous avez dite. Moi, je vois du côté des démocrates et de toute l'intelligentsia des démocrates, des think tanks, d'un certain nombre d'anciens généraux qui ont eu des fonctions très importantes dans l'appareil américain, se lamenter du fait que Biden ne soit pas allé assez loin. Et aujourd'hui, beaucoup le poussent à aller beaucoup plus loin. Et certains vont essayer même de montrer à Trump qu'il a tout intérêt, s'il est vraiment aussi opposé qu'il le dit, à l'Iran, à la Corée du Nord et à la Chine, de ne pas céder à Moscou. Donc le vrai sujet, vous dites, regagner les territoires, oui, il y a cet aspect-là, mais c'est le signe que l'on va envoyer. Le signe, c'est le droit international des frontières, c'est-à-dire c'est une victoire pour Poutine si finalement son invasion à payer d'une certaine manière. Et deuxièmement, c'est le droit international humanitaire, parce que tant que vous avez des territoires occupés par les Russes, ça donnait un permis de tuer à Poutine pour commettre viol collectif, torture, déportation d'enfants et assassinat ciblé de personnalités. C'est ça la réalité des territoires occupés, il ne faut jamais l'oublier.
Alors ce n'était pas arrivé depuis près de 2 ans pour un dirigeant occidental. Vendredi dernier, le chancelier allemand a décroché son téléphone pour appeler Vladimir Poutine. C'est un coup de fil qui a duré 1 heure. Olaf Scholz a demandé au président russe de mettre fin à la guerre d'agression, de retirer ses troupes. Et pourtant, le porte-parole du Kremlin se félicite de cette conversation.
Разговор состоялся по инициативе германской стороны. В этом, конечно, его важность. Политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук, это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения. Поэтому, конечно, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога, он весьма позитивный.
Alors, Joséphine Staron, évidemment, ce n'est pas la même musique du côté ukrainien, puisque Volodymyr Zelensky dit que Olaf Scholz a ouvert la boîte de Pandore. Est-ce que c'est le cas, d'après vous?
Ce qui est certain, c'est qu'on ne voit pas trop à quoi le chancelier pouvait s'attendre ou voulait s'attendre avec ce coup de téléphone. Donc on peut peut-être essayer de lire cet événement géopolitique à partir de la politique intérieure allemande. Aujourd'hui, on a un chancelier qui est sur le départ.
Mais il a eu tort d'appeler ?
L'avenir le dira, mais en tout cas, pourquoi appeler maintenant? S'il n'était pas sur le départ, est-ce qu'il aurait passé ce coup de téléphone? Peut-être pas. Ce qui est certain, c'est
que... Une forme de lassitude, peut-être ?
De pas de lassitude. Olaf Scholz est un pacifiste convaincu. Et aujourd'hui, il fait face à une opposition interne qui le traite de va-t-en-guerre, qui le critique dans son soutien armé à l'Ukraine. Et il veut aussi montrer à cette frange de la population qu'il n'est pas un grand guerrier, mais qu'il est au contraire un pacifiste et qu'il cherche à négocier les conditions de la paix. Et c'est peut-être un héritage qu'il veut laisser aussi, puisqu'il risque de quitter le gouvernement très prochainement.
Et Jean de Glignasti, on l'a vu avec la réaction du porte-parole du Kremlin. Vu de Moscou, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil de Olaf Scholz.
Oh bah les Russes sont contents, hein, parce que bon, bah, ça veut dire qu'on parle à Poutine. On pouvait le prévoir.
Donc c'était servir Vladimir Poutine que de l'appeler.
Oui, mais c'était aussi, d'une certaine façon, remettre l'Europe dans le jeu. Le drame, c'est qu'il l'a fait tout seul. Il ne l'a pas fait avec Macron, il ne l'a pas fait avec les autres. Alors, on sait que l'Europe est divisée sur cette question. Moi, je me souviens très bien qu'en juin 2021, quand Biden a rencontré Poutine et qu'il a désamorcé une première crise en mer Noire, à l'époque, c'était Macron et Merkel qui avaient dit que ce n'est pas normal que la guerre en Ukraine soit traitée sans les Européens par les Russes et les Américains. Donc ils avaient demandé qu'on fasse en marge du Conseil européen fin juin, qu'on propose à Poutine de venir discuter avec les dirigeants européens. Et à ce moment-là, ça aurait pu marcher. L'opposante, c'était Madame Cajas, qui à l'époque représentait un État d'un 1,5 million d'habitants et qui a bloqué cette initiative européenne.
– Il faut discuter avec Vladimir Poutine ?–
Alors, ma réponse est non. Ma réponse est d'abord parce que c'est quand même un criminel de guerre qui est recherché par la Cour pénale internationale en raison d'un mandat du procureur du 17 mars 2023. Et qu'il y a un certain moment où les principes importent sur les relations internationales. Parce que sinon, on donne des signaux qui sont extrêmement mauvais. Deuxièmement, discuter avec Poutine, pourquoi faire ?
– Il faudra le faire un moment ou un autre ou pas ?
Pardon, je pense qu'il ne le faudra pas. Je ne dis pas avec la Russie. Je ne dis pas quand on aura. Mais non, mais c'est-à-dire que voilà. Mais non, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut vaincre la Russie. Est-ce qu'on aurait discuté avec Oussama Ben Laden et Abu Bakr al-Baghdadi, enfin donc les leaders d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Non. Et la réponse est non, parce que tout simplement, ce sont des États qui, ce sont des groupes qui commettent des crimes. Est-ce qu'on l'aurait fait avec Adolf Hitler? On l'aurait pas fait. Est-ce qu'aujourd'hui on ne veut pas discuter avec Assad? Je pense qu'il y a un moment où les principes sont quand même extrêmement fondamentaux. Et d'ailleurs, la réaction des Européens a été une réaction, y compris d'ailleurs du président de la République française, ont été des réactions vraiment très mesurées, pour ne pas dire franchement critiques.
Jean de Glignasti, vous êtes un diplomate. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Tenzer pour dire qu'il n'y a pas de place à la diplomatie? On ne peut pas parler avec Vladimir Poutine.
Fondamentalement et institutionnellement, vu du point de vue dont nous parlons, je ne suis pas d'accord avec lui, il n'est pas d'accord avec moi. Moi, je crois qu'il faut toujours négocier, que toutes les guerres se terminent par des négociations, qu'on ne choisit pas ses interlocuteurs.
Il va falloir céder des territoires.
Ah, ça, c'est autre chose. Mais manifestement, quand il y a une négociation et si on arrive à un accord de paix, il y a des concessions réciproques. D'un côté, il y aura des territoires et de l'autre côté, il y aura la sécurité de l'Ukraine.
Alors, discuter avec Vladimir Poutine, ce n'est pas toujours facile, visiblement. Mais en 2015, un an, on s'en souvient, la Russie et l'Ukraine s'étaient déjà retrouvés autour d'une table de négociation pour signer à l'époque les fameux accords de Minsk.
Oui, c'était le 12 février 2015. Vladimir Poutine et Petro Porochenko, l'ancien président ukrainien, signent à ce moment-là la deuxième version des accords de Minsk sous le patronage de François Hollande et d'Angela Merkel. Alors, ces accords, ils doivent permettre de mettre fin au conflit qui oppose l'armée ukrainienne d'une part et les séparatistes pro-russes dans le Donbass. Un conflit qui a débuté juste 2 mois après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Et ces accords, ils prévoient donc 13 mesures au total, dont un cessez-le-feu immédiat, le rétablissement du contrôle total de la frontière par l'Ukraine, la tenue d'élections locales dans les zones séparatistes et une réforme constitutionnelle en Ukraine pour accorder une plus grande autonomie aux régions autoproclamées. Mais cet accord est très fragile. Et je vous propose d'écouter François Hollande qui s'exprimait à ce sujet quelques heures seulement après la signature des accords.
Il y a eu un accord. Il y aurait pu avoir un échec. Mais l'accord ne garantit pas qu'il y aura, dans les jours prochains, un succès durable.
Un accord extrêmement fragile, donc, est déjà contesté. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir fait entrer 50 de ses chars dans l'est du pays la nuit dernière, au moment même des négociations.
Alors, très vite après, le cessez-le-feu va être violé par les deux parties. Et en février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie va faire complètement voler en éclats ce qu'il restait de ces accords. Joséphine Staron, après cet échec, est-ce qu'aujourd'hui, les deux parties peuvent arriver à un accord et surtout, peuvent-elles le respecter ?
Alors, si on pense accord comme un énième accord de Minsk ou un bis repetita, non, on peut peut-être gagner un peu de temps, mais on ne réglera absolument pas cette situation. Ce qui est compliqué, c'est aujourd'hui, étant donné l'état des forces et des alliances, d'imaginer un perdant et un gagnant. Or, comment se termine une guerre ? Eh bien, c'est quand il y a un perdant et un gagnant. Et là, on ne voit pas ce scénario-là. Donc, bien évidemment, il y a la question des concessions, mais ensuite, il y a la question de la volonté. Est-ce qu'on est d'accord pour respecter les concessions et les conditions d'une paix ? Eh bien, ça, poser la question à Vladimir Poutine. Peut-on lui faire confiance dans le respect d'accords futurs ? C'est une question que les chefs d'État et les diplomates vont devoir se poser pendant les négociations, si négociations il y a dans les mois à venir.
En cas de négociation, Nicolas Tanzer, il faut des concessions de part et d'autre ?
Mais, disons, normalement,
dans concessions territoriales.
Normalement, dans les négociations, il en faut. Mais c'est pour ça que je ne vois absolument pas de négociations avec Vladimir Poutine. Les accords de Minsk, c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que François Hollande et Angela Merkel ont décidé d'aller là-bas ? C'est tout simplement parce que les États-Unis ne voulaient pas, c'était à l'époque de Barack Obama, ne voulaient absolument pas intervenir. Et ils avaient montré d'ailleurs déjà leur refus en 2013, puis après encore en 2015, d'intervenir.
Est-ce que ça peut se passer de nouveau, c'est-à-dire que les États-Unis n'interviennent pas et que ce sont donc les représentants des chefs d'État européens ?
En fait, déjà, il y a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez eu cette fiction, justement, vous le rappeliez, des séparatistes, des soi-disant séparatistes. En fait, c'était vraiment des personnes qui étaient totalement téléguidées par la Russie. Ensuite, ces accords ont été violés, essentiellement quand même par les Russes, de manière massive. C'était d'ailleurs une raison aussi pour laquelle les sanctions n'ont pas été levées à l'égard de la Russie, parce qu'ils violaient ces accords de Minsk. Aujourd'hui, si on recommence ça, on va arriver exactement au même résultat. Une paix fragile, la Russie va se réarmer dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, et puis finalement, ça va recommencer comme avant, et les prochaines victimes vont être l'Europe. Je rappelle juste que la Russie a violé, il y a des think tanks qui l'ont établi, plus de 100 accords. Sous Poutine, plus de 100 accords qui ont été signés. Donc comment faire confiance à la Russie pour le respect des accords ?
Jean de Glignasti, l'Ukraine doit renoncer à une partie de son territoire, la Crimée par exemple, ou le Donbass ? Ou les deux ?
Oui, c'est eux qui décideront, mais on regarde la séquence.
Pour vous, la paix, elle va vers ses concessions territoriales ? Elle passe par ses concessions territoriales ?
Quand les Français, avec les Polonais et les Allemands, ont essayé de trouver un accord à Maïdan, l'Ukraine gardait son intégrité territoriale. À Minsk, l'Ukraine perdait la Crimée. À Istanbul, alors que les Anglais lui ont demandait de continuer à résister, l'Ukraine perdait la Crimée et le Donbass. La pression russe est telle qu'au fur et à mesure que le temps passe, s'il n'y a pas d'accord, la situation de l'Ukraine s'aggrave. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky, qui n'est pas idiot et qui sait que les 400 milliards d'aides qui lui ont été promises jusqu'à présent ne vont pas se prolonger indéfiniment.
Mais s'il y a accord, qu'est-ce qui vous garantit que Poutine ne voudra pas aller plus loin ? Il y a eu un accord à Minsk et il a envahi l'Ukraine en 2022.
Il y a eu un accord à Minsk, mais la responsabilité de la violation de l'accord de Minsk, elle est partagée. Parce que les Ukrainiens, dès le lendemain de la signature de l'accord de Minsk, ont dit que jamais ils n'accepteraient un statut d'autonomie.
Parce qu'ils le trouvaient injuste.
Voilà. Du côté russe, la violation est plutôt militaire, c'est-à-dire sur le terrain, ils ont continué à les bombarder, etc. Puis alors après, il y a eu l'invasion, bien sûr.
Alors Joséphine Staron, on voit qu'il pourrait y avoir des concessions territoriales. On se demande s'il faut essayer de trouver un nouvel accord. En fait, c'est quoi la solution ?
Il n'y en a pas, sinon elle aurait été trouvée depuis longtemps. C'est extrêmement complexe. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est quel que soit l'accord trouvé, peut-on, pourra-t-on faire confiance à Vladimir Poutine, notamment pour le respecter ? Eh bien là, c'est un pari, comme dans chaque accord de paix. Et ce qui fera que Vladimir Poutine le respectera ou non, c'est le rapport de force qu'il y aura en face.
Avec les États-Unis, par exemple. Il est moins isolé aujourd'hui.
Et avec l'Union européenne. Si l'Union européenne se montre unie, forte, renforce sa défense à ses frontières et aux frontières de ses alliés, bien évidemment que ça dissuadera Vladimir Poutine d'aller plus loin ou de recommencer ou d'aller ailleurs. Mais sans ce rapport de force en la faveur des Européens, eh bien évidemment, l'histoire se répétera.
Mais Nicolas Tenzer, vous dites qu'il est impossible de discuter avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Vous distinguez Poutine et la Russie. Mais celui qui dit qu'il faut la paix, y compris par des voies diplomatiques, c'est le président ukrainien Zelensky.
Alors, il le dit, mais dans la même phrase, il dit, dans le même interview plutôt, il dit, mais Trump ne peut pas nous forcer à nous asseoir à la table. C'est une autre partie de l'entretien qui est très importante. Il a répété aussi qu'il n'est pas question de faire des négociations territoriales, tout simplement parce que c'est aussi dans la Constitution.
Il a dit 2025 et la voie diplomatique.
Il a dit ça pour plaire à Trump. Il faut voir qu'il y a, depuis l'élection de Trump, regardez aussi les posts qu'il a fait sur le réseau X envers Trump, qui vise à le cajoler dans le sens du poil. Hein, c'est quand même tout à fait quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc je pense que ça, c'est vraiment un discours adressé aux Américains. Tout le reste du discours de Zelensky est parfaitement clair. Et aujourd'hui, d'après les sondages, vous avez 80% des Ukrainiens, même s'ils sont évidemment totalement épuisés, qui disent nous ne sommes prêts à ne pas, nous ne voulons pas faire de concessions. Il y a une députée ukrainienne qui disait une chose extraordinaire. Elle disait si nous continuons à nous battre, nous allons mourir par milliers. Et si nous cédons, nous allons mourir par millions.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau et d'avoir répondu à notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.